la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Nous sommes en plein dans l'entre-deux-tours et la campagne bat son plein. Le duel au sommet entre les deux candidats s'annonce très serré, avec d'un côté Jean-Luc Moudin pour la droite et François Piquemal pour la gauche unie pour tenter de ravir le Capitole. Et bah quoi, vous êtes surpris que sur Radio Campus Paris on parle des municipales de Toulouse ? Je vois pas le paradoxe perso, surtout que je ne vais pas du tout vous parler municipal. Non. Avant les sujets plus sérieux du jour, j'aimerais vous parler d'un petit manga, Ashiz, dont le tome 2 est sorti en janvier dernier. L'autrice, Stéphanie Le Chevalier, nous livre avec un trait artistique beau et délicat l'histoire de Ben, un jeune ramoneur dans une cité remplie de cheminées de toits recouverts de cendres. Des cendres des usines qui entourent la ville. Armé de son courage et de ses amis, et des autres amis qu'il se fera sur son chemin, il devra affronter des périls mortels afin de découvrir la vérité derrière les attaques de monstres ravageant sa ville et les transformations que son propre corps traverse. Donc, si vous ne savez pas quoi faire dimanche en allant vanter Pitmal Capitole, qui a dit ça, n'hésitez pas à faire une pause dans une librairie, prendre un petit manga. Au sommaire du jour, on retrouve Marine dans la grande interview avec qui on reçoit Cyril Armouski, reporter de guerre en Ukraine, qui sort son premier livre, Ukraina. J'espère que je le prononce bien. Avec Robin, dans le Zoom, on recevra René Zakariou pour son roman Medium. Thierry à la chronique Actu dans le Flash. Thierry au Flash Info et Fabien à la chronique Actu, de retour cette fois avec des infos insolites. Et pour finir, Lise nous parlera cinéma dans sa chronique.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et comme je le disais, Marine, bonjour.
Bonjour.
Notre invité aujourd'hui, c'est Cyril Armouski. Bonjour Cyril.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Vous sortez votre premier livre, Ukraina, aux éditions du Cerf.
Bonjour Cyril, merci Hugo. Donc vous êtes journaliste indépendant, reporter de guerre en Ukraine pour des médias français comme LCI, Le Quotidien ou BFM TV. Vous êtes aussi franco-russe, vous êtes né en Russie, vous avez grandi en Ukraine, mais vous avez fait vos études à Lille, à l'ESPOL, si je ne me trompe pas.
À l'ESPOL, tout à fait.
Ok. Et donc voilà, votre nationalité, votre engagement contre la guerre en Ukraine et votre soutien à la résistance ukrainienne donnent à votre travail une véritable sensibilité qu'on va voir par la suite. Et donc, comme l'a présenté Hugo, vous venez de sortir votre premier livre, Ukraina, aux éditions Le Cerf. Il est sorti donc le 5 février dernier. Est-ce que ce livre, c'est un peu votre journal de bord de votre travail au cours de cette guerre en Ukraine ?
Tout d'abord, merci pour ces compliments et c'est tout à fait le cas. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle j'ai un peu plus de 20 000 abonnés, mais sur laquelle je publie pas grand-chose depuis un certain temps. Malheureusement, je n'ai pas toujours le temps de m'en occuper. Et en fait, j'avais commencé à faire une série de vidéos qui s'appelle Carnet de guerre. Et donc, finalement, ce livre, c'est un peu un carnet de guerre. C'est vraiment un récit au fil des années, à partir de 2022, avec mon premier déplacement dans une Ukraine en guerre totale, parce que j'ai vécu en Ukraine entre 2019 avant. Et donc, quand je suis arrivé en Ukraine en avril 2022, j'ai commencé mes premiers reportages. Et donc, je raconte tout ce que j'ai fait entre 2022 et 2025, vraiment sous un style très personnel, c'est-à-dire que je raconte mes propres émotions, ce que je vois autour de moi. Et finalement, ce livre me permet de m'exprimer beaucoup plus longtemps, beaucoup plus en détail et de façon, je dirais, beaucoup plus intime, en fait, sur ce que j'ai vu sur place. Parce que malheureusement, parfois, quand on est reporter, eh bien, évidemment, on a une limite en termes de signes, on a une limite en termes de temps de parole. Donc il faut toujours être bref, concret, et parfois il faut surtout s'abstenir en fait de donner sa propre opinion. Et là, dans ce livre, vraiment, je livre mon propre témoignage et surtout je livre le témoignage des Ukrainiens que j'ai rencontrés au cours de toutes ces années.
Donc c'est un peu tout ce que vous n'avez pas eu la possibilité de dire ou de montrer dans vos reportages. Vous le mettez dans ce livre avec une écriture assez directe, honnêtement. On le lit facilement, il n'y a pas de fioritures, rien qui vient enjoliver la situation. C'est direct, c'est ce que vous voyez, ce qu'on vous dit C'est un peu votre idée dans cette écriture.
Je dirais que c'était effectivement l'idée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a beaucoup d'épisodes dont j'ai déjà parlé, soit dans mes reportages. D'ailleurs, dans le livre, je raconte que à ce moment-là, je suis parti en reportage, j'ai fait un reportage pour tel ou tel média, j'ai écrit tel ou tel article. Donc, si on est même un peu curieux, en théorie, on peut se dire ah bah tiens, il a publié quelque chose, bah je vais faire une recherche sur internet pour voir ce que ça donne. Et c'est un peu l'idée aussi, c'est d'avoir une sorte d'interactivité en fait avec le lecteur, sans que je puisse directement interagir avec lui. Et l'idée, c'est vraiment voilà de rentrer beaucoup plus en détail sur certains sujets, de se dire que maintenant je ne suis plus limité, j'ai plus 1 minute 30, 2 minutes, je peux vraiment m'exprimer autant que nécessaire sur tel ou tel chapitre, je peux donner vraiment tous les détails nécessaires, je peux publier une interview en entier parce que j'ai vraiment le temps de le faire. Donc c'est vraiment ça le but, et d'utiliser une langue tout à fait, j'ai envie de dire, il faut que ce soit quand même bien écrit, mais effectivement sans exagération, de façon assez claire, et surtout j'ai envie de m'adresser à des jeunes. Moi-même j'ai 24 ans, ça sert à rien de chercher une posture de grand écrivain ou quoi que ce soit. Je prétends pas au prix Goncourt, c'est pas le sujet. Ce qui compte pour moi, c'est vraiment de m'adresser à ma propre génération, m'adresser aux Français de tous les bords, de tous les âges, de tous les milieux, pour qu'ils puissent justement comprendre ce qui se passe en Ukraine à travers ce livre.
Et les travaux que vous avez faits pour les différents médias précédemment, est-ce qu'ils ont été bien reçus selon les différentes lignes éditoriales ?
Oui, je dirais que oui, puisque je continue à travailler aujourd'hui avec les médias différents. Et c'est vrai que c'est quand même une question essentielle. Et d'ailleurs, c'est un sujet dont je parle assez en détail, je pense, dans le livre. Et j'en parle assez, depuis assez rapidement, j'ai envie de dire, dans le livre lui-même. C'est-à-dire qu'il faut toujours savoir, il faut trouver une sorte de juste milieu dans son travail. Moi, je ne cache absolument pas mes opinions. Il n'y a absolument aucun débat là-dessus. Je dis toujours clairement que je suis pro-ukrainien, que je rappelle mon rapport à l'Ukraine. Je ne saurais être neutre. Et d'ailleurs, la neutralité, ça c'est un des premiers cours qu'on avait en journalisme à Sciences Po, n'existe pas en réalité. Par contre, ce qui existe, c'est le fait de s'en tenir aux faits. Et donc moi, à chaque fois, dans tout mon travail, je vais toujours m'en tenir aux faits. Et je pense que c'est pour ça que j'arrive à avoir vraiment cette parole libre, que ce soit dans le livre, sur les réseaux sociaux et même en plateau. Et en même temps, j'ai cette confiance de la part des grands médias et des médias différents, que ce soit des médias britanniques, puisque je travaille aussi avec la BBC de temps à autre, des médias canadiens, bref d'autres pays, et surtout des médias français. C'est parce que quand je suis sur le terrain, je sais qu'il faut que je rapporte vraiment sur, il faut vraiment que je parle de ce qui se passe sur place. C'est pas mon avis à moi qui intéresse. Ce qui intéresse, c'est vraiment le factuel. Et j'arrive toujours à remettre le contexte. Si je pars en reportage, et j'avais fait ça une fois en territoire russe, et que je sais qu'il y a l'armée ukrainienne autour des civils russes avec lesquels je vais parler, bah je vais le contextualiser. Je vais dire qu'il n'y avait pas une parole qui était 100% libre pour autant. Quand il y a des problèmes de corruption en Ukraine, je vais en parler. Quand il y a des difficultés sur le front, je vais en parler. Pour moi, il n'y a vraiment pas de tabou, et je pense que c'est cette sincérité, cette honnêteté et cette transparence qui justement paye et qui fait que j'ai un public qui me suit, et qu'en plus de ça, les médias me font confiance aussi. Parce que oui, j'ai mes opinions, mais je vais sur le terrain.
Oui, une transparence qu'on ressent tout le long de cette lecture. Et l'écriture de ce livre, vous y avez pensé dès 2022, quand la guerre a été entamée, enfin, même si elle a commencé bien plus tôt, où vous y avez pensé plus récemment?
Alors, pour tout vous dire, est-ce que j'ai déjà eu l'idée à un moment d'écrire un livre ou pas? Oui, on se pose tous la question à un moment ou à un autre, et surtout, il y a votre entourage qui vous pose des questions. Ah oui, est-ce qu'à un moment, tu comptes écrire un livre ou pas? Et personnellement, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'avait déjà fait une proposition en 2023, mais je me sentais pas vraiment à l'aise de le faire, parce que j'étais un peu plus jeune, j'avais 21 ans, bon, je l'ai écrit à 23 ans, on peut dire que c'est pas une grosse différence, mais en réalité, 2 ans de différence en termes d'expérience de reporter de guerre, ça fait beaucoup, ouais. Surtout quand on a que 4, donc c'est quand même 50% de plus, enfin même non, 100% de plus, pardon. Et donc, en fait, c'était extrêmement important pour moi de prendre un peu plus de recul, un peu plus de temps pour pouvoir faire ce travail. Et le livre que je voulais écrire en 2023, finalement, rien ne s'est passé comme prévu. Je voulais faire quelque chose sur la contre-offensive de l'été 2023 en Ukraine, et finalement, ça s'est pas aussi bien passé que ce qu'on espérait en Ukraine. Et en fait, en 2025, c'est une maison d'édition, les éditions du SAC qui sont venues me voir et qui m'ont proposé ça dans une histoire assez particulière, assez drôle pour le coup. J'étais venu tout simplement faire une interview chez eux, et ils m'ont dit, tiens, on vous a découvert en tant que personnage, on sait quel travail vous faites sur le terrain, est-ce que ça vous dirait de rédiger un livre? Et j'étais un peu tombé de ma chaise parce que disons que c'était absolument pas dans mes plans, dans mes priorités ou quoi que ce soit, et j'ai accepté de le faire et j'en suis très ravi.
Parce que votre livre, comment il est construit, il commence dès 2022 jusqu'à 2025.
C'est ça.
Donc on a une sorte de chronologie des faits et on vous suit dans votre travail de reporter qu'on va voir donc par la suite de cette interview. Lorsque la guerre débute, qu'est-ce qui vous pousse à vous rendre en Ukraine, donc en 2022, ça fait maintenant 4 ans que cette guerre a commencé. Qu'est-ce qui vous pousse à partir en Ukraine sur le front en 2022 ?
Vous avez tout à fait raison d'abord de dire que le but de ce livre, c'est vraiment de suivre un ordre chronologique. C'est vraiment la logique que j'ai choisie parce que je voulais que le lecteur puisse me suivre. Et qu'est-ce qui m'a poussé à aller en Ukraine ? Eh bien, déjà, il faut rappeler une fois de plus que je suis franco-russe. J'ai vécu en Russie lors de mes 6 premières années de vie jusqu'en 2008. Et j'ai déménagé en Ukraine avec ma famille en fait en 2008. Et j'ai vécu avec eux, disons, à plein temps jusqu'en 2019, jusqu'à l'obtention de mon bac. Et depuis 2019, je faisais des allers-retours réguliers puisque ma famille vivait sur place et vit toujours d'ailleurs sur place, et parce que de toute façon j'ai un attachement particulier à l'Ukraine, c'est là où j'ai la plupart de mes amis, c'est vraiment ma maison, c'est la ville que je connais le mieux, et bien c'est Kiev, la capitale de l'Ukraine. Donc pour moi la question ne s'était pas posée en fait de revenir, je savais que j'allais revenir, la question c'est sous quelle forme. Et je crois que je le dis aussi dans le livre, il y a une question qui peut paraître complexe, mais en fait qui est assez simple, qui s'est posée, c'est est-ce que je rejoins l'armée ? Alors que je suis un étranger, mais c'est tout à fait possible en tant qu'étranger de rejoindre l'armée ukrainienne pour protéger le pays, ou bien je fais autre chose. Et l'autre chose, finalement, je me suis dit que tiens, ça pourrait être pertinent de faire du journalisme, ou en tout cas d'utiliser mes langues. Je parle couramment russe, ukrainien, français, anglais, et j'ai un très bon niveau en espagnol, j'ai un B2. Donc je me suis dit, tiens, je peux utiliser ces langues et les mettre à profit pour un travail journalistique en Ukraine, parce que combien est-ce qu'il y a de journalistes qui connaissent aussi bien que moi l'Ukraine et qui connaissent et le russe et l'ukrainien et le français ? Je pense que ça se compte sur les doigts d'une main. Et donc je me suis dit que tiens, j'ai quand même cet atout, je peux travailler là-dessus. Il y avait effectivement un énorme défi par rapport à l'âge aussi, à un certain âgisme. Ah ouais, t'as 19-20 ans, t'es encore jeune, t'as jamais fait de terrain. Donc il y avait tout un scepticisme à ce niveau-là, mais moi je me suis pas posé la question plus que ça, tout simplement parce que je me suis dit c'est soit l'armée soit autre chose. J'avais des amis qui faisaient du bénévolat, qui aidaient soit à la frontière soit directement en Ukraine, j'ai d'autres amis qui sont partis combattre, je ne pouvais pas rester à la marge de ces événements alors que ça faisait des années que je disais à tout mon entourage que c'est super important ce qui se passe en Ukraine, il faut réagir puisque la guerre a commencé en 2014 et qu'on connaît cette nouvelle étape depuis 2022. Et donc pour moi c'était une suite logique, ma famille est sur place, je connais ce pays, je peux me rendre utile, alors je vais aller sur le terrain.
Et est-ce que vous continuez de vous y rendre régulièrement en Ukraine ?
Absolument, là je vais y aller dans à peu près 2 semaines. C'est assez étonnant en fait, et disons, ce n'est pas quelque chose de normal ces derniers temps que de me voir aussi longtemps en France, parce que là ça va faire un mois et demi que je suis à Paris, parce que normalement je passe vraiment 50% de l'année en Ukraine, et normalement quand je reviens en France je reste 2-3 semaines, peut-être un mois, et là ça fait un mois et demi, je vais rester encore 2 semaines. Pourquoi ? Parce que j'ai mon livre qui est sorti, et donc je suis en pleine promo, je fais une sorte de tour de la France, je vais aller à Cogolin demain, à Nice après-demain, à Cannes le samedi, je vais enchaîner ensuite avec Lille et avec d'autres villes, et en fait justement je profite de ces 8 semaines en France pour pouvoir parler de mon travail, parler de mon livre, vraiment en parler dans toutes les villes possibles. Là, on est à Paris, c'est très bien de faire des événements à Paris, mais la France, ce n'est pas que Paris. Il faut s'adresser vraiment à un public large, notamment étudiant, et c'est pour ça que je vais avoir un événement à la Cato le 26. Donc voilà, mais je vais très régulièrement en Ukraine, et mon but, c'est vraiment d'avoir plus de temps passé sur l'année en Ukraine qu'en France, à vrai dire, ou en tout cas dans d'autres pays.
Et quand vous êtes sur le terrain, donc en Ukraine, est-ce que vous avez un quotidien ? Est-ce qu'il y a les journées se ressemblent, ou chaque journée est un peu imprévisible et vous allez là où l'information vous mène?
Ça dépend par période et ça dépend aussi de la géographie. Si je reste en Ukraine, disons clairement dans la capitale, là ça va plus ou moins se ressembler, c'est-à-dire que soit je vais être en mission pour faire des duplex, notamment pour BFM TV, et bon bah ça va se ressembler parce que en gros de telle à telle heure je vais avoir des duplex et je vais voir mes amis et je vais tout le temps prendre des images, ou bien je vais passer des duplex à partir du lieu où je me trouve, donc tout le temps au même endroit. Mais si je vais dans d'autres régions, là évidemment il faut que je fasse quelque chose de plus original, Et je sais que je ne vais pas rester longtemps dans la région parce que, disons que mon QG, c'est là où vivent mes parents, donc à Kiev. Donc je vais passer un jour sur place dans telle ou telle ville, je vais faire tel reportage avec des civils, avec des militaires, avec une évacuation de civils. Donc disons que ça varie vraiment en fonction de la période, et géopolitique aussi. Tout dépend de ce qui se passe à l'étranger et de ce qui se passe en termes de politique étrangère.
Merci Cyril pour cette première partie de l'interview. Vous restez avec nous, mais pour l'instant, c'est la pause musicale.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et c'était de The Help, ça c'était du sabotage pour me le faire dire deux fois. Je te vois, Aude. Donc vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et tout de suite c'est la suite de l'interview avec Marine et Cyril Armouski pour la sortie de son premier roman, Ukraina. Et moi, j'avais par contre une question pour cette deuxième partie de l'interview. C'était qu'on vous a entendu parler de Kiev dans les médias français. On a plutôt
l'habitude d'entendre parler de Kiev. Pourtant, j'avais vu qu'il y avait un gros débat sur cette prononciation, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Donc, pourquoi pas l'un, pourquoi pas l'autre ?
Il y a toujours un grand débat sur ce sujet et je n'essaie pas de prétendre sur le fait que j'ai forcément raison là-dessus, même si je le pense évidemment. Kiev, en fait, c'est vraiment le nom russe de la ville. On dit Kiev en russe et en ukrainien, on dit Kiev. Et donc, pour les Ukrainiens, c'est important d'utiliser vraiment une écriture qui est différente parce que, disons que sinon, c'est une sorte de réflexe colonial que d'utiliser l'écriture surtout du pays agresseur. Beaucoup vont diront que oui, mais sauf qu'en français, on ne dit pas London, on dit Londres, et donc on a une écriture différente. Sauf qu'il n'y a pas de raison particulière historique à ce que justement on utilise en français Kiev et pas Kiev. Surtout que ça se prononce en fait, ça se dit en français, on peut le dire Kiev. Donc c'est surtout ça le sujet. Il y a quelques médias qui ont fait ce basculement, notamment Libération, qui ont raison de le faire. Et avant, je disais Kiev sans le moindre souci, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est important tout simplement d'utiliser cela comme un totem et de rappeler certaines choses parce que ça fait partie aussi du combat de l'Ukraine aujourd'hui pour son identité d'utiliser les bons noms.
Bah merci pour ce rappel phonétique. J'aimerais qu'on revienne sur les propos que vous, sur certains passages de votre livre. Notamment, tout le long du livre, vous parlez beaucoup des acteurs humanitaires qui sont sur le terrain, qui aident les Ukrainiens et les Ukrainiennes, que ce soit pour l'évacuation, mais aussi pour l'aide alimentaire, l'aide à tous les jours. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus des anges blancs que vous évoquez plusieurs fois dans votre livre et qui a un côté un peu mystique ? Pourtant, ils sont bien réels et ils aident le peuple ukrainien.
Tout à fait. Je me permets de préciser que si vous dites Kiev, c'est pas grave. Je vais pas vous manger pour autant. On peut très bien utiliser ce mot en France aussi. Mais par rapport aux anges blancs, revenons au sujet plus sérieux. En fait, il s'agit d'une équipe de la police ukrainienne qui s'est créée, je crois, un ou deux ans après le début de l'invasion à grande échelle. Et elle a un seul objectif, c'est évacuer des civils dans les zones qui sont les plus impactées par la guerre. Donc, notamment, ça a commencé par la région de Donetsk et maintenant, ils se sont élargis dans la région de Soumy. C'est au nord de l'Ukraine, et également dans la région de Kharkiv, qui est également, disons, au nord-est du pays. Et en fait, c'est une équipe de police qui va quasiment tous les jours, voire même, tous les jours, vraiment dans les pires endroits possibles, donc dans les endroits où on peut encore, malgré les risques, s'y rendre et récupérer des civils pour pouvoir leur accorder une chance de s'en sortir. Et c'est vraiment une équipe qui travaille, qui réalise un travail fantastique, parce qu'en fait, on n'y pense pas forcément. C'est-à-dire qu'en France, et c'est normal, on se concentre énormément sur ce qui se passe sur le champ de bataille, sur ce qui se passe à l'arrière lorsque la capitale ou d'autres grandes villes sont bombardées ou bien ciblées par des drones russes, des missiles russes, mais il y a également le travail humanitaire qui est extrêmement important. Et les gens, justement, parce que après, les anges blancs, ils sont pas seuls, ils travaillent avec des équipes de bénévoles humanitaires, et bien sans eux, il y a peut-être des milliers d'Ukrainiens qui aujourd'hui ne seraient plus en vie ou en tout cas vivraient sous occupation. Et donc pour moi c'était très important de parler de leur travail et de travailler avec eux à plusieurs reprises pour vraiment parler de cela, pour pouvoir expliquer à quel point c'est dangereux, parce qu'il faut vraiment comprendre que si auparavant on pouvait aller dans une ville, et ça vraiment je pense que c'est un point essentiel, si en 2022-2023 on pouvait se rendre dans une ville avec sa propre voiture, même si les Russes ils étaient à 1, 2, 3 kilomètres et que même une partie de la ville était sous occupation russe, c'était possible. C'était extrêmement dangereux, on avait un risque de tir de mortier, d'artillerie ou d'autres types d'équipements. Mais c'était possible. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout possible. Pourquoi ? Parce que la guerre des drones a tout changé à partir de la fin de l'année 2024. Et donc aujourd'hui, alors que par exemple, quand je raconte certains épisodes, notamment à Pokrovsk en février 2025, on pouvait y aller avec un véhicule civil mais blindé. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout possible. Aujourd'hui, ce n'est plus possible d'y aller avec un véhicule civil. Même si c'est un véhicule blindé, il y a énormément de chances qu'il puisse être ciblé et détruit par un drone. Et donc, dans certaines communes, on est même obligé de faire 10, 15, 20 kilomètres à pied pour aller chercher des civils avec un gilet pare-balles qui pèse plusieurs kilos, avec un casque, avec tout le matos, avec les affaires des civils eux-mêmes qu'on transporte. Et c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement risqué, et d'ailleurs il y a un membre de l'équipe des Anges Blancs, une femme qui est morte il y a quelques semaines dans la région de Kharkiv alors qu'elle était partie évacuer des civils. Donc ces gens-là, ce sont des héros du quotidien dont on ne parle pas forcément, et pour moi c'était extrêmement important de leur rendre hommage et de parler de ce travail-là et d'ouvrir disons tout un volet humanitaire sur ce sujet auprès du public français ou francophone.
Oui, parce que vous avez suivi des humanitaires qui allaient aider certains civils à être évacués. Et il y a un passage qui m'a un peu marqué. Vous dites qu'au début, vous ne les compreniez pas, ces civils qui... Parce qu'à l'inverse, il y avait des civils qui souhaitaient rester chez eux, dans leur maison, dans leur ville, avec leurs voisins, leurs voisines. Et après, vous les avez compris, en fait, que ces personnes souhaitaient rester parce qu'elles avaient leur vie. Et,
Quand je dis qu'ils sont majoritaires ou que ces gens-là sont majoritaires, je parle des gens qui ont décidé de rester jusqu'au bout et avec lesquels finalement on n'arrive pas forcément à négocier et disent non, fuck, je reste, rien à faire. Pourquoi ? Parce que ce sont très souvent soit des personnes âgées, soit parfois des personnes qui sont handicapées ou malades ou alcooliques. Et en fait, c'est vraiment toujours les cas les plus difficiles en termes de personnes évacuées. Pourquoi ? Parce que pour les personnes âgées, enfin, pour les derniers cas que j'ai cités, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer, mais pour les personnes âgées, eh bien, il faut comprendre que c'est des personnes qui ont une retraite de quelques dizaines d'euros par mois, donc absolument rien du tout. Et c'est des personnes qui, en fait, ont investi toute leur vie, des dizaines d'années, dans une seule et même ville et dans un seul et même appartement. Donc, pour eux, quitter cet appartement ou quitter la petite maison de campagne, c'est vraiment dire au revoir à 50, 60, 70 ans de leur vie. Donc, c'est extrêmement compliqué. Je dirais qu'il y a des cas où, effectivement, j'en parle dans le livre, j'ai mis mon jugement de côté parce que j'ai analysé plus en profondeur la situation, mais il faut quand même savoir que grosso modo, je continue à juger la plupart des gens qui décident de rester. Pourquoi ? Parce que en fait, ils sont dans des zones qui sont extrêmement dangereuses, donc ils créent des problèmes pour leur propre famille, qui s'inquiètent pour eux, qui ont envie justement de retrouver leurs proches, et eux décident de vraiment rester coûte que coûte. Et après, d'un autre côté, il y a aussi toute une question, j'ai envie de dire, de stratégie militaire. Les Ukrainiens ne peuvent pas mener des manœuvres militaires comme ils le souhaitent, étant donné qu'il y a des civils dans certains quartiers. Et enfin, troisième aspect, qui à mon avis est encore plus important, c'est qu'on parlait de ces humanitaires. Et on parle aussi, et dans ce livre, je parle aussi des équipes de bénévoles humanitaires qui prennent des risques pour se rendre dans tel ou tel village, tout simplement pour y déposer des vivres, pour y déposer des médicaments. Mais ça, c'est un risque énorme. C'est un risque énorme. Parfois, il y a, je sais pas, on n'a pas de chiffre exact, mais aller dans une ville et y revenir, on a 80% de chances qu'on se prenne un drone sur soi. Donc quand on prend ce type de pourcentage, quand on comprend ce type de risque, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on doit se casser le cul à justement prendre ce risque alors qu'une personne aurait pu être évacué. Donc en fait, il y a un certain égoïsme que moi je continue à juger. Cela dit, et c'est ce dont je parle dans le livre, il y a des cas où effectivement il faut vraiment regarder à la loupe ce qui se passe, et il faut savoir aussi que l'État ukrainien est très pauvre, n'a pas beaucoup de ressources. Et que quand ces familles-là partent, bah souvent elles n'ont pas d'autres membres de famille ailleurs en Ukraine, souvent ils n'ont pas l'argent pour pouvoir trouver un refuge à l'étranger, et donc ils ont une aide d'État d'une centaine d'euros, mais qu'est-ce que tu fais avec une centaine d'euros par tête par mois quand t'as plus de logement, quand t'as plus de travail, rien du tout. Et donc j'ai rencontré une famille par exemple qui a dû quitter deux fois la ville de Pokrovsk et qui sont revenus deux fois vraiment dans l'enfer même de Pokrovsk parce qu'ils sont restés SDF en fait en quittant leur ville. Donc c'est pour ça que je continue à juger, mais c'est toujours important de dialoguer avec ces gens-là et comprendre leur situation. Et finalement, je suis content parce que cette même famille dont je parle, eh bien, à force de négocier avec eux et en les convainquant et en entendant aussi des explosions qui se rapprochaient, finalement, ils ont fait le bon choix de partir. Mais je connais d'autres histoires où, malheureusement, je sais que des civils ont décidé de ne pas partir, notamment avec des petits-enfants. Et en 2022, il n'y avait pas d'obligation gouvernementale à faire évacuer des enfants qui ne sont pas partis et qui sont morts alors qu'ils auraient pu être sauvés. Pourquoi ? Par égoïsme de leur propre famille. Donc, il y a aussi tout un sujet, les enfants et les adultes, qui prend quelle décision. Mais aujourd'hui, ça a un peu changé.
Mais est-ce que ça pose pas justement une question un peu matérialiste de, dans le calcul que font de ces personnes, de qu'ils partent ou qu'ils restent, l'enfer sera similaire.
En fait, c'est exactement ça. Et c'est-à-dire que nous, ce qu'on utilise comme argument en permanence, soit les journalistes, soit tout simplement les équipes de bénévoles humanitaires qui se rendent dans ces endroits-là, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a de plus important que la vie ? Bah, la dignité aussi. Et c'est-à-dire que quand on a justement des civils qui nous racontent que mais merde, en fait ça fait déjà deux fois qu'on a perdu notre logement ou deux fois qu'on a dû revenir, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui par exemple ont quitté en 2022 leur ville dans laquelle ils résidaient auparavant dans la région de Donetsk. Le front a avancé, ils ont donc dû aller encore plus en arrière, mais sauf que cette ville-là s'est retrouvée à nouveau sur le front, et ainsi de suite. Et j'avais par exemple rencontré un homme comme ça dans la ville de Konstantinivka, qui en ce moment est le front immédiat, disons, entre la Russie et l'Ukraine, où il y a un civil qui m'avait expliqué qu'il a dû déjà quitter deux fois des villes différentes dans la région de Donetsk et qu'il n'en pouvait plus. Et finalement, il a aussi fait le choix de partir parce que sa fille a réussi à le convaincre. Mais il faut se mettre dans l'état d'esprit de ces gens-là. Donc c'est extrêmement compliqué, mais c'est un travail à faire parce que le but de ces missions humanitaires, c'est de sauver le plus de monde possible ou de ne pas avoir de civils qui peut-être vont se retrouver sous occupation russe, qui seront utilisés par la Russie, voire torturés, voire assassinés, parce que ça arrive très souvent.
Et lors de vos interventions sur le terrain, vous dites que vous suivez donc des humanitaires ou alors que vous partez en reportage. À la fin de votre livre, il y a un groupe, un long passage, on va dire, sur comment ces missions, ce terrain vous a marqué. Est-ce que sur le terrain, vous avez eu peur? Est-ce que des fois, le stress, la peur vous a peut-être envahi? Comment on gère ça?
Je dirais qu'au cours de ces dernières années, il y a une nouvelle peur qui s'est développée, c'est vraiment la peur des drones. Et c'est-à-dire que vous êtes dans une voiture, vous ne savez pas du tout si vous allez vous faire toucher ou pas. Pourquoi? Parce que tu as un brouilleur sur ta voiture, on s'en fout, ça aide pas en fait. Maintenant, il y a des drones qui s'appellent des drones à fibre, vraiment comme la fibre chez vous avec un câble. Et ces drones, ils sont imbrouillables. C'est impossible de les brouiller et donc on peut se les prendre dessus à n'importe quel moment. Et donc, tu regardes en permanence par la fenêtre et tu te dis, est-ce que c'est un oiseau ou est-ce que c'est un drone? Et parfois, tu te dis, c'est un oiseau et finalement, c'est un drone. Et tu te dis, tiens, l'oiseau, il se rapproche. Donc ça, c'est un stress parce que tu comprends que tu es dans la voiture et tu peux absolument rien faire. Surtout si tu es un civil ou un journaliste et que tu n'as pas de fusil à pompe sur toi pour pouvoir tenter de dégommer le drone, eh bien, tu es vraiment dans la mouise. Donc, il y a cette crainte qui s'est développée, mais une autre crainte, je dirais, qui est un peu plus profonde, c'est le fait de perdre aussi le sens du temps. Et avant, je me disais que bon, bah, on va se voir dans une semaine, dans deux semaines. Maintenant, je prends beaucoup plus soin sur tout ce qui concerne mes rencontres. J'ai perdu tellement d'amis ou tellement de connaissances en 2025 que maintenant, je comprends à quel point le temps est important. Et je souhaite par cette occasion rendre hommage aux personnes dont je parle dans ce livre, notamment à Éric Coursier qui a fait le choix courageux de combattre du côté de l'Ukraine et qui est mort l'année dernière.
Merci Cyril pour cet hommage et cette interview. C'est malheureusement déjà la fin.
Merci pour cette invitation.
Donc je le rappelle, vous êtes venu nous parler de votre premier roman Ukraina aux éditions du Cerf. L'intervieweuse, c'était Marine, que je remercie.
Exactement.
Également.
Exactement. Merci Hugo, merci Cyril pour ta venue.
Et n'hésitez pas à le retrouver en boutique, en librairie. Voilà,
exactement. Alors vous restez dans le studio, mais pour l'instant... C'est le Flash Info avec Thierry.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Alors Thierry, que se passe-t-il dans le monde ?
Ah, salut Hugo, bonsoir à tous. Bah, à retenir dans l'actu de ce mercredi 11 mars, le point sur les élections municipales. À Nice, coup de théâtre, Bruno Retailleau, le président du Parti des Républicains, a annoncé aujourd'hui qu'il ne soutiendrait pas son candidat Christian Estrosi face à Éric Ciotti. Pour rappel, à Paris, Sarah Knafo, candidate Reconquête, s'est désistée en faveur de Rachida Dati au second tour afin de faire barrage à la gauche représentée par Emmanuel Grégoire. La situation au Moyen-Orient. Alliée de l'Iran, la Russie désapprouve la mort du chef de la sécurité nationale iranienne Ali Larijani, tué dans une frappe israélienne hier. En Europe, le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot et son homologue allemand ont appelé ce mercredi à la désescalade dans la région pour éviter une crise mondiale. Allez, on jette un œil aux sorties ciné de ce mercredi. À l'affiche, Les rayons et les ombres, un drame historique ambitieux avec une mise en scène ample et un casting français de premier plan avec Jean Dujardin. Pour les amateurs d'émotion, Reminders of Him avec Ryan Gosling, adaptation du roman à succès de Colin Hoover's, mise sur le mélo et les destins brisés. Plus léger, Police Flash 80, comédie rétro avec François Damiens qui revisite les codes du buddy movie à la française. Trois ambiances, trois univers, à vous de choisir votre séance. Sport, football, le Paris Saint-Germain s'est qualifié hier soir pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en éliminant hier soir à Londres Chelsea 3-0. Prochain adversaire des tenants du titre, soit les Turcs de Galatasaray ou les Anglais de Liverpool qui s'affrontent ce soir. Enfin une belle histoire. Une belle histoire, certes triste, venant des États-Unis en février dernier. Un vétéran de la Seconde Guerre mondiale est décédé à l'âge de 100 ans, mais il est devenu le donneur d'organes le plus âgé du pays. Il a pu donner un foie en très bon état. Bravo pour ce magnifique geste et ça fait du bien. Fin de ce Flash 19h33. Merci d'être à l'écoute de Radio Campus Paris avec la suite de votre matinale avec Hugo et toute son équipe. Très bonne soirée et à très bientôt.
Eh bien, merci Thierry pour ce petit tour du monde. Et avant de passer à la suite du programme avec le Zoom, la chronique Actu et la chronique libre, c'est le moment de la deuxième pause musicale.
Thank you.
Et c'était le remix de Laxis de Prozac par Sarda, je ne sais pas, Aude, je te déteste. Cœur avec les doigts. Et on continue dans l'actualité sur Radio Campus Paris avec la chronique Actu.
La matinale de 19h, Radio Campus Paris.
Et aujourd'hui, c'est Fabien qui nous revient avec de nouvelles infos insolites.
Et oui, tout à fait. Et on commence tout de suite. On va rester en France. Et c'est à Arcy-sur-Aube qu'un duel improbable de second tour des élections municipales est arrivé. Vous allez avoir Hitler face à Zelensky. C'est situé dans la région Grand Est. Les habitants de cette petite ville n'auront pas le choix entre le dictateur nazi de sinistre mémoire et l'actuel président ukrainien, mais bien entre deux candidats au nom étonnant. C'est Charles Hitler avec deux T et Antoine Renaud Zelensky qui s'affronteront en effet dimanche prochain pour l'obtention de la mairie d'Arcy. Bien conscients de porter des patronymes hors du commun, les deux candidats n'ont jamais joué sur cet aspect insolite. Ils entendent séduire leur électorat avec des projets concrets reposant sur deux stratégies totalement différentes. Et puis, une offre d'emploi insolite toujours en France, c'est un rêve d'enfant qui peut se réaliser le temps d'un été. À Ribagnac, le château de Bridoine en Dordogne vient de publier une annonce pour un travail de saisonnier qui sort de l'ordinaire. Le château de Bergerassois est à la recherche d'une princesse en CDD pour les mois de juillet et août 2026. Pour la première fois cet été, la princesse du château de Bridoire ne se contentera pas de se balader et de prendre des photos avec les enfants. Elle va participer à une des animations, un spectacle équestre, pour s'assurer que la future tête couronnée puisse assurer le spectacle en robe. La gérante lui demande d'avoir au minimum le niveau galop 5, donc un très bon niveau en cheval. La princesse aura également une casquette de soigneuse puisqu'elle devra s'occuper des animaux du château. La princesse en CDD doit également être à l'aise à l'oral. Elle troquera sa robe pour une tenue plus simple pour présenter les chevaux au public. Pour postuler, il faut simplement être majeur et avoir un bon niveau d'équitation. La propriétaire du château demande aux candidates d'envoyer un CV et une vidéo à cheval. Oui, ce n'est que pour les filles, évidemment.
Tu comptes pas postuler, Fabien, du coup.
Non, pas du tout. Je serais pas pris. Si elle n'est pas du secteur, la princesse pourra même loger sur place. Et c'est une véritable offre d'emploi. Pour postuler, il faut envoyer un CV avec une vidéo à cheval par mail à domaine de bridoine@gmail.com. La page Facebook, c'est Château de Bridoire. Et le site internet, c'est châteaudebridoire.com. Et puis en Angleterre, cette fois on va en Angleterre, où une influenceuse de Crowley rassure ses abonnés. Pas de panique, le prix du carburant reste inchangé à 20 livres. Bethany Johnson, qui partage régulièrement des astuces pour économiser, a confié à ses abonnés avoir fait le plein aujourd'hui, comme d'habitude, pour seulement 20 livres. Bethany, 22 ans, conductrice depuis 4 ans, explique qu'elle fait le plein à la même station-service depuis l'obtention de son permis et que le prix a toujours été de 20 livres. Donc elle pense que toutes ces rumeurs de hausse des prix ne sont que des manœuvres alarmistes du gouvernement et des médias. Il n'y a pas de panique, c'est un complot, il essaie de nous contrôler, le prix n'a pas augmenté. Elle a dû oublier un léger détail. À toi.
De quoi ?
J'ai fini.
Ah ok. Merci Fabien pour cette suite d'informations insolites. On est toujours sur Radio Campus Paris. Ce n'est pas la fin, c'est le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et aujourd'hui dans le Zoom, c'est Robin. Bonjour Robin.
Salut.
Qui vient avec qui on interviewera René Zaccario pour son premier roman Moedium.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, alors je sais pas si le micro est allumé. Ouais, ok, magnifique. René, bonjour. Vous avez écrit donc votre premier livre qui s'intitule Medium. On verra juste après pourquoi Medium et pas Medium. Donc ce livre qui est sorti du coup il y a pile un mois, le 18 février 2026, c'est ça si je dis pas de bêtises.
Tout à fait.
Aux éditions Mnemos. Donc vous êtes plume freelance.
Tout à fait.
Autrice, freelance, j'imagine que c'est
autrice.
Pareil.
C'est mon activité pro. C'est plume freelance spécialisée sur les sujets tech et sciences.
Ok.
Et en parallèle de ça, parce que je trouvais que j'écrivais pas assez, j'écris aussi de la fiction.
Donc j'ai vu que vous avez quand même écrit même pas mal d'essais avant d'écrire ce livre. Et aussi, donc vous êtes franco-grec, vous êtes donc passionné, comme vous venez de le dire, de tech et d'environnement. Est-ce que vous allez le faire mieux que moi, je pense, en quelques mots, vous pouvez nous pitcher un peu l'histoire de ce roman?
Ouais, avec plaisir. Donc c'est un roman qui s'appelle Medium, donc il y a un petit jeu de mots avec medium et œuf, il y a le E dans l'eau. Et on suit les aventures de Mira, qui est une jeune data scientist dont la mère était medium et sa mère vient de décéder. Donc notre héroïne, qui est très rationnelle, pense que tout ça c'était vraiment n'importe quoi, sa mère se foutait de la gueule du monde, etc. Jusqu'au moment où, évidemment, alors qu'elle essaye de...
devant le fait accompli.
Voilà, alors qu'elle essaye de vider l'agence de voyance familiale, elle tombe sur un étrange objet qui fait apparaître des souvenirs qu'elle pensait avoir oubliés. Donc elle va devoir, comme tu dis, devant le fait accompli, se rendre, faire une enquête pour comprendre un peu qu'est-ce qui lui arrive.
Et d'où ça vous est venu cette idée de confronter un esprit rationnel face à finalement une partie d'irrationalité ?
Je pense que c'est moi. Les gens ne seront pas étonnés si je dis que ce personnage, il me ressemble quand même pas mal. Moi, j'ai un côté très, très rationnel, très terre-à-terre. J'aime bien que si on me dit les énergies vibratoires et tout, je vais un peu me méfier très fortement. Mais ça me fascine quand même. Je trouve ça hyper intéressant. Et je pense qu'il y a une partie de moi qui a envie d'y croire et qui veut pas devoir s'inquiéter des risques et des dangers qui peuvent être associés parfois à ce type de croyances. Et donc le fait de pouvoir écrire sur ça dans une fiction, il y a plus du coup... Moi, ça me permet de me dire qu'il n'y a plus ces problèmes-là et donc je peux explorer absolument ce que je veux.
Et donc, du coup, quel chemin ou quel contexte, actuel ou pas, d'ailleurs, vous a mené à écrire ce livre ?
Je pense qu'il y a un contexte plutôt personnel. Donc c'est un livre qui parle beaucoup du deuil, puisque finalement on va quand même suivre la trajectoire de Mira, qui au début est vraiment un peu dans le déni, elle fait comme si ça lui faisait rien, et finalement elle va redécouvrir un peu la vie de sa mère. Et donc ça fait écho à mon histoire personnelle, puisque j'ai perdu ma mère de façon assez similaire, de façon assez abrupte comme le personnage. Donc ma mère qui n'était pas médium, je précise à toute fin utile.
Il fallait romancer un petit peu pour en parler.
J'ai eu besoin de romancer. Et c'est aussi pour ça que je pense que j'ai rajouté cette dimension fantastique, parce que en fait je pense que c'est ce qui m'enthousiasme, c'est ce qui me fait marrer, et je pense faire un truc qui est vraiment très proche de ma vie, où ce qui m'est arrivé, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu, moi ça m'amuse pas, je pense ça marche pas. Ça serait plus proche de vous mentionner au début le fait que j'ai écrit des essais, j'écris pas mal en ligne. Donc je pense qu'il y a vraiment des blogs, j'ai des blogs depuis que j'ai 14-15 ans, donc je pense qu'il y a vraiment des trucs qui traînent partout. Mais là, sur la fiction, j'avais besoin de rajouter une dimension en plus.
Et du coup, pourquoi un roman et pas encore un énième essai ou quelque chose de plus petit ?
Ah, parce que j'aime bien compliquer la vie, je pense. Non, mais parce que c'est vraiment cette dimension d'exploration qui, moi, m'intéressait. Je pense qu'un essai, je l'ai fait aussi, je pense que ça peut être... essai, quand je dis essai, c'est des textes en ligne, c'est pas des... je précise, j'ai pas écrit des essais publiés. Mais je pense que ce qui m'amusait, c'est d'expérimenter.
Ouais. Et alors j'ai lu volontairement que la moitié du livre, pour essayer de pas trop spoiler, j'avais un petit peu peur de trop en dire ici. Mais de ce que j'ai compris, c'est un roman qui est donc fort en émotion. On rentre sans mal dans la tête de Mira. C'est très condensé, c'est très fluide, c'est très agréable à lire. D'ailleurs, il y a que 200 pages, donc ça se lit très bien. Et vous abordez du coup une pluralité de sujets. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les mémoires, la mémoire qui est au centre du livre, le deuil, la santé mentale, la transmission maternelle, et aussi beaucoup le corps et les sensations que l'on retrouve du coup souvent associées à cet œuf. Est-ce que cette densité thématique, elle était pensée dès le départ, ou est-ce qu'elle est venue en écrivant ?
J'ai même coupé des thèmes, parce qu'il y avait juste... Il y avait juste trop de choses, en fait. Au début, j'avais même d'autres personnages, d'autres thématiques. J'avais une dimension plus importante sur la tech qui est présente dans le livre. Mais effectivement, vous n'y êtes peut-être pas encore, parce que ça intervient plus vers la deuxième moitié du livre, on va dire. Donc, je pense que moi, ce que j'aime bien, c'est, je me répète, le côté explorer. Okay. Donc, je lance les thèmes. Et parfois, il y en a qui restent, il y en a qui apparaissent, il y en a qui disparaissent. Mais ça me touche que... mettiez l'accent sur le fait que ce soit très dense et qu'il y ait beaucoup de choses, parce que c'est tout un équilibre de proposer quelque chose qui est riche, que ce soit pas juste une dimension, une histoire qui parle d'un seul truc, mais effectivement il faut quand même qu'il y ait un équilibre, parce que après on s'y perd en tant que lecteur-lectrice.
Alors c'est pas fouillis, au contraire on aurait pu croire que ça part dans tous les sens, mais contrairement à tous les autres romans qu'on peut lire et qui prennent leur temps, qui posent un décor pendant des centaines de pages, là, c'est pas du tout le cas, on y arrive direct. Et donc, la mémoire et le deuil qui sont du coup centrales dans votre texte, passent souvent par des sensations qui sont très physiques, donc notamment à travers de cet œuf, on vient de le dire. Mais est-ce que c'est une manière un petit peu d'inviter le lecteur à se retrouver, à se reconnecter à son corps ?
Ah, c'est une bonne question. Je pense que le côté des sens, c'est vraiment plus lié à une... Donc tant mieux si ça, les gens se reconnectent à leur sens et à leur corps et disent « Ah oui, effectivement, quand je sens telle chose, ça me rappelle tel autre truc. Après, moi, je pense que c'est plus une technique d'écriture, en fait, où quand on écrit un conseil d'écriture un peu classique, c'est... Bah, l'écriture, ça passe que par la vue, de toute évidence. Mais si on veut que les textes soient incarnés, c'est bien d'essayer de mettre des éléments sensoriels un peu à droite, à gauche. Et je pense que j'ai juste poussé à fond sur ça, sur la dimension des souvenirs.
Parce qu'on a l'impression, du coup, que ça s'inscrit beaucoup dans un contexte très actuel où le monde part de plus en plus en vrille et qu'on a envie, du coup, de se reconnecter. Et du coup, là, grâce à cet héritage dont Mira a pu hériter.
Alors, en gros, ce que tu veux demander, c'est la façon dont le roman s'inscrit dans une actualité mondiale qui part dans tous les sens, avec parfois des explosions médiatiques, et comment l'actualité a pu impacter ton écriture.
C'est alors... exactement ça, merci Hugo.
Je ne suis pas à l'animation pour rien.
Je pense que, honnêtement, moi, l'actualité, ça m'empêche plus d'écrire qu'autre chose. Mm-hmm. Parce que, voilà, comme tu dis, avec toutes les crises et tout, on se dit, bah, quoi bon, ouais, continuer à écrire des petites idées sur mon petit traitement de texte, dans mon petit coin. Après, on le disait un peu en intro, moi, je suis vraiment hyper intéressée par tous les sujets liés à la tech. Mm-hmm. Mais après, c'est délicat en fiction parce que ça peut se démoder aussi très vite. C'est-à-dire que ce livre, je l'ai écrit entre 2020 et 2023. Okay. Ensuite, on trouvait une maison d'édition. Voilà, on est en 2026. Et c'est pour ça que, par exemple, volontairement, ils utilisent des téléphones, des choses comme ça, les personnages, mais je ne cite pas ni d'appli, ni de logiciel. Donc, je pense que sur l'actualité, moi, c'est plutôt... C'est pas l'actualité chaude, c'est plus... Moi, une des questions que je me posais, c'est qu'est-ce que la technologie fait à notre vie ? Mm-hmm. Dans ce que ça a de plus personnel, qu'est-ce qui est de plus personnel que les souvenirs ?
À notre échelle planétaire, à ce moment-là de nos vies... Okay.
La technologie, finalement, sert de décor au récit pour que le récit sur le mystique et le deuil puisse se dérouler.
Je sais pas si c'est un décor. Je pense que c'est un thème qui s'ajoute en plus à ceux que je voulais traiter. Et en fait... La technologie, maintenant, on la voit même plus, en fait. C'est peut-être un décor, mais ça fait presque partie de notre corps, en fait. Maintenant, on a tout le temps le téléphone. Et moi, je suis la première à avoir le téléphone à la main tout le temps. Je suis pas du tout en train de dire, les gens, ils sont sur leur téléphone, gna 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 gna. Mais dans les faits, on est quand même beaucoup dessus. Et du coup, je trouve que c'est dur d'écrire aujourd'hui en prenant pas du tout ça en compte.
Et justement, il y a une idée phare que vous représentez pas mal dans votre texte, qui est que le passé pourrait être et même devrait être au service du futur. Il y a cette phrase notamment qui dit que le passé c'est l'avenir, et il y a une des personnages qui dit que ça ferait un très bon slogan d'ailleurs. Quel intérêt vous y voyez justement de ne pas se passer du passé, en fait?
Waouh, j'ai fait une grimace.
Ce sera la dernière question.
Ce sera la dernière question. C'est la dernière réponse. J'ai fait une grimace dans la phrase. Je me suis dit, ah bon, j'ai écrit ça. Parce qu'un des thèmes du bouquin aussi, c'est la mémoire, le fait juste qu'on oublie, en fait. Je me suis dit, bon, j'ai jamais dit ça. Et effectivement, c'est quelque chose qui est dit par Tiffany, qui est la meilleure amie, qui essaye un peu d'être un peu maladroite, qui essaie un peu d'être influenceuse et qui essaie bien sortir un peu les punchlines, voilà, un peu qu'on voit un peu de développement personnel un peu partout. Et je pense que, en fait, la mémoire, et c'est là le paradoxe, ça c'est lié au deuil, plus qu'à la question de voilà, comment est-ce que ça éclaire notre avenir, c'est quand on est en deuil, à la fois on veut se rappeler de la personne, et en même temps pour avancer, on a besoin d'oublier. Il y a des choses qu'on a besoin d'oublier. Et c'était ça, c'était cette tension que j'avais envie d'explorer.
D'accord.
Très bien. Merci
beaucoup.
Dernière question, du coup,
non,
est-ce
Robin, je te coupe.
Savoir où est-ce qu'on va vous retrouver, votre livre.
Vas-y.
Merci, Animal. dans toutes les bonnes librairies, vous pouvez le trouver sur Internet, mais vraiment, les librairies, c'est super. Il faut les soutenir.
Les petits commerçants.
Allez en librairie.
Ça marche. Et merci, René.
Merci, René. Mais une dernière question que je me permets, c'est poursuivre ton actualité. T'es très tech. Est-ce que t'as un Instagram?
J'ai un Instagram, donc on me trouve, René Zakariou. Après, moi, j'aime les techs, j'aime écrire, donc un peu mon Instagram, c'est pas ma plateforme de cœur. J'ai une newsletter qui s'appelle Chaussettes de soirée. C'est un peu dur à dire à la radio.
Et c'est OK. Donc, si vous aimez le contenu, si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à aller suivre René sur son Instagram ou à s'abonner à sa newsletter. C'est la fin de ce Zoom. Je remercie donc René et
merci
Robin
à vous
pour l'interview.
Mais de rien.
Mais tout de suite, c'est l'heure de la dernière pause musicale avant la fin de cette matinale.
C'était Tonight de Pink Panthers sur Radio Campus Paris. Il est 19h55, c'est bientôt la fin de cette matinale, mais avant, c'est une chronique culture qui se prépare.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Lise, tu viens nous parler de deux sorties cinéma ce soir.
Tout à fait, je vais vous parler de deux films qui sortent au cinéma aujourd'hui, donc Les Rayons et les Ombres et Projet Dernière Chance. Alors Les Rayons et les Ombres est un film dramatique et historique français réalisé par Xavier Giannoli, dans lequel Jean Dujardin interprète Jean Luchaire, un homme qui va devenir collaborateur durant la Seconde Guerre mondiale, entraînant avec lui sa fille Corinne Luchaire, star montante du cinéma de l'époque, interprétée par Nastia Golubeva. Il s'agit du 9e long métrage de Xavier Giannoli qui sort donc 5 ans après ses Illusions perdues qui lui avaient fait remporter 7 Césars en 2022. Si à première vue ce film peut être vu comme un énième film sur la Seconde Guerre mondiale, on se rend compte très vite que la manière d'aborder cette période suffit à redonner de l'intérêt et de l'authenticité à ce film. En effet, ici on se place du point de vue d'un homme, Jean Luchaire, journaliste parisien comme Monsieur Tout-le-Monde et qui pourtant, en cherchant à pacifier la situation, va tomber dans la collaboration. Par là, Giannoli déconstruit la vision manichéenne des méchants et des gentils que l'on a de cette guerre. Il nous met face à une situation dans laquelle on peut facilement se projeter pour qu'on se demande, et moi, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ? Par ailleurs, le fait que ce soit Corinne la narratrice est très astucieux car on prend assez de distance avec les personnages principaux pour avoir un point de vue assez objectif, tout en restant bien ancré dans l'histoire car avec le point de vue subjectif de la fille. Cela remet également en question sa responsabilité en tant que spectatrice passive des faits. Est-ce que ça la rend coupable ? Est-ce qu'on aurait agi à sa place ? Ce qui est sûr, c'est qu'en allant voir ce film, on se contente de n'être que spectateur comme elle. Du haut de ces 3h15, Les Rayons et les Ombres prend donc le temps nécessaire pour nous montrer que la réalité est plus complexe et nuancée que l'on voudrait le croire, et qu'en réalité, on possède tous cette double facette. L'ombre a besoin de rayons pour exister et inversement. Il en revient donc de notre responsabilité de s'orienter vers la lumière ou vers l'obscurité. Basculons à présent du côté des alliés, mais à une toute autre époque, pour parler du film Projet Dernière Chance, réalisé par Phil Lord et Christopher Miller. Il s'agit d'une adaptation du roman Project Hail Mary, sorti en 2021, écrit par Andy Weir, également auteur de Seul sur Mars, qui fut aussi l'objet d'une adaptation cinématographique. Ce film nous raconte l'histoire d'un professeur de sciences, Ryland Grace, interprété par Ryan Gosling, qui se retrouve seul dans un vaisseau spatial sans se souvenir des moyens par lesquels il est arrivé ici. Mais très vite, il reprend conscience de la mission qui lui a été confiée, sauver l'humanité, rien que ça, en empêchant une substance inconnue de détruire le soleil, rien que ça encore. Et pour ce faire, il va pouvoir compter sur l'aide d'un ami atypique, Rocky. Ce film, à l'opposé de celui dont je parlais avant, nous fait quitter et oublier notre réalité un peu déprimante pour nous faire entamer un magnifique voyage dans l'espace. Mais au-delà du plaisir sensoriel qu'il nous procure, Projet Dernière Chance nous touche sentimentalement en mettant au premier plan l'amitié qui se tisse entre Ryland et Rocky. En effet, le film décide de ne pas s'engager sur la voie d'une histoire complexe très scientifique et préfère se contenter d'un scénario assez simple, mais parsemé d'une bonne touche d'humour et de références cinématographiques, le tout soutenu par le jeu authentique et sympathique de Ryan Gosling. C'est donc un film qui se veut positif et relaxant, parfait pour passer un beau moment et retrouver un peu d'optimisme. Donc, petit conseil pratique, allez voir Projet Dernière Chance après avoir vu Les Rayons et les Ombres.
Merci Lise pour ces deux recommandations culture et cette recommandation de visionnage, finalement, d'ordre de visionnage. Mais il est malheureusement déjà 19h58. C'est donc la fin de cette matinale. Et je remercie chaleureusement nos invités Cyril Armouski et René Zaccariou venus nous parler de leurs livres respectifs. Marine pour l'interview, Romain pour l'interview du Zoom, Thierry pour son flash info, Fabien pour la chronique actu et ses infos insolites. Et puis enfin Lise pour sa chronique cinéma. À la réalisation, c'était Joey que je remercie aussi, ainsi que Aude et... Ouais, même toi Aude. Et Jeanne, les coordinatrices de la matinale. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence, pour la dernière matinale de la semaine. Je vous souhaite une bonne semaine sur Radio Campus Paris.